Bienvenue dans Art Confidence sur Art District, l'émission qui va à la rencontre des artistes et des acteurs du monde culturel, ce qui les anime, ce qui les passionne, ce qui les motive. Bonjour à tous, vous écoutez Art District et aujourd'hui je suis avec le photographe Boris Vilansky. Bonjour Boris Vilansky, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Bonjour, écoutez, je suis ravi aussi d'être avec vous aujourd'hui.
Alors, photographe voyageur, aimant la musique passionnément, ayant un regard sur la ville assez intense, hein, les villes c'est ce que vous aimez, vous les photographiez mais vous aimez aussi les visages, observer le monde. Et justement, Boris, vous avez beaucoup voyagé notamment pour réaliser une série de photographies que vous avez appelée Urban Vortex. Alors racontez-nous la genèse de cette série de photographies qui, elle aussi, a beaucoup voyagé en étant exposée dans plusieurs endroits.
D'accord. À la base, en fait, effectivement, j'aime... J'ai eu envie de réagir tout de suite sur la phrase « Vous aimez la ville ?» En fait, je crois que c'est plus compliqué que ça. Je ne sais pas si je l'aime ou si je la déteste, la ville, mais c'est sûrement pour ça que j'ai eu envie de travailler sur ce sujet-là.
En tout cas, vous êtes fasciné par
la ville. Je suis fasciné, exactement.
Ouais. Fasciné, alors, ça peut être du rejet, ça peut être de la passion, mais c'est cette ambivalence en fait, que vous voulez créer à l'intérieur de vos photographies.
Mais ça part en fait du constat que... qui est le mien, qui est celui d'un Parisien, qui se rend compte que son comportement, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, que mon comportement est différent à Paris. Et quand je dis mon comportement, je pense que c'est le comportement des gens aujourd'hui dans les grandes villes, et un peu dicté par les rythmes de la ville, et qu'on devient un petit peu des... j'aime bien l'image de cellules dans le sang, dans une image de corps humain avec des cellules qui sont un peu conditionnées pour aller toutes dans le même sens. Et je trouve que la ville, elle a tendance à uniformiser nos façons de penser, nos façons de vivre, nos rythmes. Et c'est ça qui, quelque part, me fascine, me gêne aussi en partie, et que j'ai eu envie d'exprimer à travers la photographie. Et effectivement, comme j'aime aussi beaucoup les gens, faire des rencontres, et je trouve que on s'enrichit en rencontrant des gens différents et en confrontant des points de vue et des façons de vivre. Et j'adore le portrait, donc j'ai eu envie de mêler tout ça, de mêler le portrait et la ville, et de faire naître une réflexion à travers tout ça.
Alors c'est effectivement des photographies qui sont constituées d'architecture et de visages superposés, des visages très humains, très émouvants, que vous mettez en surimpression en fait sur des vues d'architecture très urbaine, ou bien c'est l'inverse, vous allez nous expliquer quelle est votre technique en fait.
C'est plus compliqué que ça, il y a des deux en fait. Là aussi il y a une dualité, c'est qu'en fait au départ j'ai découvert la surimpression vraiment par hasard, en même temps que la découverte de Tokyo. Je suis parti en 2008 à Tokyo suite au fait d'avoir vu un film qui est Lost in Translation, qui m'a donné super envie de découvrir le Japon et Tokyo.
Alors c'est vrai que dans votre première série qui s'appelle Origine, hein, parce que en fait Urban Vortex est un projet photographique constitué de trois séries.
C'est ça.
La première série Origine, qui s'appelle comme ça, les photos font vraiment penser effectivement à ce film.
Oui. Voilà. Tant mieux. En tout cas, c'est vrai que c'était à la base l'origine justement de ce voyage et de cette découverte, c'est ce film-là. Et j'aime bien l'idée que ça soit le cinéma qui m'ait amené aussi à réaliser cette série photographique. On parlera de Cannes, je pense, après, mais voilà, je trouve qu'il y a des choses qui se font et qui sont assez logiques. Et effectivement, au départ, j'ai découvert le Japon et je venais de m'acheter un nouveau boîtier, et en prenant une photo dans Tokyo, dans le métro, je trifouillais mon boîtier, je me suis aperçu qu'on pouvait faire de la surimpression, coller, juxtaposer une photo sur une autre directement dans son boîtier. Et le résultat, ça m'a intéressé.
Directement dans le boîtier, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail post-photo.
Il y a une partie de travail en post-prod, c'est-à-dire un développement photo classique où on retravaille ses contrastes, etc. Mais effectivement, dans toute la première partie qui est Origins, je l'ai fait directement dans le boîtier lors de ce premier voyage. C'est comme ça la création. C'est ça qui est chouette, c'est qu'à partir d'un accident, on peut se rendre compte qu'il y a des accidents heureux et qui vous donnent de l'inspiration pour continuer ensuite à travailler dans une direction.
Alors, vous trifouillez votre boîtier, vous expérimentez. D'où vient cette passion de la photographie, Boris Vilensky ?
Du voyage, c'est sûr, parce que la photographie en tant que telle, elle ne me passionne pas plus que ça. Je n'ai jamais de boîtier sur moi. Il y a des gens qui prennent 10 fois plus de photos que moi. D'ailleurs, j'en prends jamais, moi, à Paris. J'en prends jamais dans la vie de tous les jours, quoi.
Donc, c'est plutôt l'aspect documentaire ?
Non.
Qui vous intéresse, pour, c'est-à-dire observer les
c'est
gens ?
C'est le mode d'expression.
D'accord.
C'est-à-dire que si j'avais eu le choix, je crois que j'aurais préféré faire du rap que faire de la photo. Si j'avais pu, j'aurais été rappeur.
Alors puis, justement, vous avez commencé à photographier des musiciens.
Ouais.
De la scène hip-hop, rap.
C'est-à-dire que j'ai commencé par les voyages, par faire une petite expo dans Paris qui m'a... Enfin, à cette expo-là, j'ai eu un contact avec un label de musique et je me suis retrouvé très rapidement en face de gens que j'écoutais, que j'admirais, les Oxmo Puccino, Kerry James, Ayam, etc. Et du coup, c'est les voyages, la photo qui m'ont amené... les voyages et la musique qui m'ont amené à la photographie. Donc c'est un univers, et moi ce qui m'intéresse c'est de trouver un instrument, c'est la photographie aujourd'hui, mais j'adore écrire, j'espère que demain je pousserai un peu plus sur l'écriture pour m'exprimer, parce que je trouve que c'est un joli biais aussi pour faire passer des émotions, et tout ce qui m'intéresse en fait, je pense comme plein de gens passionnés, c'est de ressentir des choses fortes et de les partager ensuite avec les autres, tout simplement. La photo c'est un moyen.
Alors vous partez au Japon. Un petit peu la valise sous le bras, comment ça se passe? Vous y allez, vous avez une idée précise en tête?
Du tout, non, à part découvrir la ville et faire des photos urbaines, j'ai pas de projet précis en tête à ce moment-là. Et justement, je découvre quasiment le premier jour, en me servant de mon nouveau boîtier, que je peux l'utiliser dans...
Vous décidez de faire une série, en fait.
En fait, j'ai compris que je pouvais partir de la réalité, qui était de prendre des vues urbaines. La toute première photo, c'est une vue du métro, à l'intérieur du métro. Et qu'en fait, en rajoutant une photo, en jouant de la surimpression, je quittais la réalité pour emmener les gens dans un univers qui est un univers urbain, mais quelque chose qui n'est pas réel. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. La réalité, je trouve qu'on l'a dans le visage, dans le nez, tous les jours dans la ville, quoi. Et elle n'est pas franchement funky, justement. On en parlait tout à l'heure. Je trouve que la vie urbaine, elle est dure, quoi.
L'homme est un peu perdu au milieu de ces grandes mégapoles.
Ouais. Je trouve qu'il se déshumanise, en tout cas. Et moi, je le vois à travers des exemples tout bêtes, mais on arrive à se blinder à Paris. Je vois des gens qui font de la manche dans le métro, ça ne me touche plus. Et le fait que ça ne me touche plus, ça m'interroge.
Vous dites qu'il y a un problème.
Parce que je me connais aussi, et je sais que à l'étranger, dans d'autres circonstances, je suis au Cambodge, peut-être parce que j'ai plus de temps aussi, mais... je sais que je peux être... Normalement, je suis touché par quelqu'un que je vois en détresse et tout. Et en ville, on est tellement habitué à ça qu'on est obligé de se former une carapace. Et c'est un peu ça aussi que j'ai voulu retranscrire à travers ce projet-là. Cette déshumanisation latente et sournoise, je trouve.
Alors, ce qui est intéressant, en plus, je crois que vous avez pris donc des vues de Tokyo, par exemple, au Japon. Et ensuite, vous êtes allé à moto dans la campagne cambodgienne, donc très loin des villes, pour aller photographier des visages de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants qui vivent loin des villes. Et ce sont ces visages-là que vous avez voulu finalement allier au paysage de Tokyo, ville complètement... intense, riche et même excessive.
En fait, j'ai voulu faire se confronter les extrêmes. La première partie de mon travail, je l'ai fait en 2008-2009. Effectivement, ça concernait que la ville. Et C'est la partie origine, c'est le mélange de l'humain et de l'urbain. Et ensuite, j'ai laissé reposer ce travail-là. Je l'ai exposé une première fois à Bangkok, à l'Alliance française. Et puis ensuite, j'ai laissé ce travail-là un peu de côté pour me consacrer à d'autres choses. Puis, il s'est passé Fukushima. Et là, j'ai eu envie de retravailler mon sujet en allant plus loin et en essayant d'axer mon travail sur de la narration, en fait. Je voulais raconter une histoire telle que moi, je la voyais, quoi. Donc, du coup, il s'est passé à peu près 3-4 ans entre Origins et la suite. Et là, je me suis dit, si je veux me donner les moyens de raconter cette histoire, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Il ne faut pas que je parte uniquement 3 semaines ou un mois cette fois-ci. J'ai décidé de partir 6 mois. Les 4 premiers mois, je suis retourné à Tokyo, Shanghai, Bangkok. J'ai fait le tour des plus grandes villes asiatiques. Après, je vous expliquerai peut-être pourquoi l'Asie aussi. Et donc, pendant 4 mois, je n'ai fait que des fonds urbains. Je me suis fait un stock d'environ 10 000 photos. Et puis, une fois que ces 4 mois s'étaient passés, je me suis dit, c'est génial. Maintenant, j'ai toutes les photos, enfin, beaucoup de vues urbaines. Et il me manque le H de l'humain que je voulais, que je désirais mixer avec ces vues urbaines. Et en fait, en réfléchissant, j'ai pas réfléchi très vite parce que le Cambodge, j'y suis déjà allé auparavant, j'ai travaillé avec des associations, etc. C'est un pays pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, qui est pour moi l'extrême opposé de Tokyo ou de Shanghai, c'est-à-dire que c'est des villes ultra connectées, assez riches, où les gens, enfin, où la modernité, le high-tech, ils sont très très présents. Et le Cambodge, c'est l'inverse. C'est un pays quasiment sans État, où les gens sont quand même très pauvres, où il y a quasiment pas de ville, ou alors c'est vraiment des petites villes, et c'est pas des ensembles urbains comme on les connaît. Et donc j'ai voulu prendre les deux extrêmes opposés, l'hyper connecté et le complètement déconnecté, pour les confronter l'un à l'autre. Et c'est pour ça que le Cambodge, j'ai terminé effectivement après ces 4 mois par 2 mois et demi de shooting, où là je n'ai photographié que des êtres humains. Et j'avais une volonté, je ne voulais pas les photographier pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire pas pour les photographier comme des Khmers et comme un touriste quelque part. Je voulais faire de la mise en scène, donc je suis parti avec des lunettes, des masques à gaz pour illustrer mon propos. Et,
donc ça, c'est une série à part entière, hein, les lunettes, les masques à gaz
C'est une série qui m'a servi à construire en fait la suite d'Origins. Ouais. C'est que je me suis dit, Fukushima, ça pose quand même un sérieux problème, c'est que...
Oui. Avant et après Fukushima, vous avez vu une différence?
J'ai vu une grosse différence quand je suis retourné au Japon. C'est que j'y suis retourné une première fois, j'y suis allé 4-5 fois au Japon, mais la deuxième fois où j'y suis retourné, c'était après Fukushima, et j'ai vu effectivement que ce qui m'avait marqué, c'était une débauche. La première fois, c'était une débauche d'énergie incroyable, beaucoup de lumière dans la ville, et un sentiment comme on peut l'avoir à New York, que l'énergie, c'est quelque chose d'infini, en fait, et que c'est pas une ressource limitée. Et quand j'y suis retourné après Fukushima, la ville avait plus du tout le même éclat. À 10h le soir, il baissait l'intensité de 50% les illuminations de la ville. Donc j'y ai pas retrouvé ce qui m'a marqué la première fois. Par contre, j'ai vu des manifestations de Japonais contre le nucléaire. J'ai vu des compteurs Geiger qui étaient présents dans des vitrines, etc. Et j'ai vu des gens, une nation qui était quand même assez inquiète et qui a légitimement le droit de s'inquiéter, parce qu'on a failli évacuer Tokyo, parce qu'on a vu la catastrophe que c'était avec un tsunami, une centrale. Il y a, je crois, 54 centrales nucléaires au Japon. On sait aussi que le Japon, il est sur une zone où il y a des contraintes tectoniques très fortes, comme San Francisco, comme la Côte d'Azur, et que c'est un endroit qui, un jour ou l'autre, sera rayé de la carte parce que le Japon s'enfoncera sous les eaux. Sauf que le jour où le Japon va s'enfoncer sous les eaux, il s'enfoncera avec ses 50 centrales. Et ça concernera ni uniquement le Japon, ni uniquement la zone asiatique, ça concernera le monde entier. Et donc, du coup, j'ai eu envie de travailler sur cette problématique aussi, de se dire, c'est chouette, on est au Japon, c'est illuminé, c'est un pays qui est super high-tech, super développé, super moderne, mais qui va peut-être disparaître, et le jour où il disparaîtra, peut-être que l'humanité sera grandement en danger aussi. Et peut-être que le progrès qu'on nous vante aujourd'hui, c'est ce qui nous mènera à notre perte de demain. Donc c'est ce qui m'a motivé pour travailler sur cette deuxième partie. Et pour ça, justement, il fallait que j'illustre ce futur,
ouais.
ce futur déshumanisant. Moi, je suis portraitiste, donc l'étincelle de vie, ce que j'adore, c'est capter la lumière dans les yeux des gens que je photographie. Et c'est là-dessus que tout se joue, la confiance, le regard, l'émotion, elle transparaît dans le regard des gens. Et je voulais le perdre. Et pour le perdre, ben, justement, j'ai usé d'un petit subterfuge ou d'une mise en scène, c'est de faire porter des lunettes opaque avec des gens, avec un petit clin d'œil aussi au cinéma, parce que ça rappelle un peu l'univers de Costa Gavras aussi, ces lunettes-là. Et le masque à gaz, il illustre aussi la tension écologique, voilà, avec toutes les images qu'on a vues.
Oui,
même,
surtout en ce moment.
Surtout en ce moment, sûr. On en reparle beaucoup de ce qui se passe à Fukushima. Et puis, on est aussi en mesure de se poser la question de savoir si on nous a dit toute la vérité sur... Enfin, voilà, on sait, nous aussi, en tant que Français, que le nuage de Tchernobyl, il a consciencieusement contourné la France.
Il s'est arrêté à la frontière.
Voilà, il s'est arrêté à la frontière. Donc, voilà, je pense que c'est une énergie...
Oui, il y a des questionnements aujourd'hui sur les nuages de pollution au-dessus des grandes villes, avec justement les voitures au diesel,
oui.
Qui devraient être interdites depuis longtemps,
oui.
mais qui sont toujours là. Donc tout ça, c'est des
questionnements. Voilà, les particules fines, enfin,
ouais,
et puis c'est des mots que j'ai utilisés aussi.
Et puis avec une prise de conscience sur la protection de l'environnement qui est de plus en plus présente quand même aujourd'hui, même si c'est long à prendre des décisions politiques, à ce que ça se mette en place. Est-ce que vous êtes devenu finalement un artiste ou même un citoyen militant quand vous avez vu le Japon après Fukushima?
Bah, je sais pas si je suis militant parce que je suis pas écolo dans l'âme, je suis pas encarté écolo. Enfin voilà, j'ai.
En tout cas, ce sont des photos un petit peu engagées quand même.
Oui, ouais, engagées.
Sans être militante.
Mais je pense qu'elles sont engagées sur le plan humain tout simplement et que c'est ça qui nous relie tous après. Tout l'écologie, enfin, je comprends pas, moi, que l'écologie, ça soit. Ouais, on peut parler du système français. Un parti qui représente l'écologie, c'est transversal. Ça a trait à notre futur
parler,
et tout le monde, voilà, ça concerne tout le monde. Donc, je pense que c'est juste logique, quoi. Et juste, effectivement, il y a un discours, ça peut être pris comme un discours militant, mais ça me gêne pas d'ailleurs, parce que je trouve qu'on est sur Terre pour une courte période, donc autant dire ce qu'on a en tête ou dans le cœur, et voilà, c'est important de donner aussi son point de vue.
Alors Boris Vilansky, ces séries de photos sont très belles, hein, notamment les visages d'enfants. Ça, c'est un intérêt particulier que vous avez voulu porter sur le visage de l'enfant. Justement, l'enfant, c'est le futur aussi. Hein.
Ouais, bah l'enfance, elle n'est présente que dans Origins, en fait. Et volontairement, j'ai mis les enfants au début parce que pour moi, ils correspondent à la naissance, aux origines.
Et dans le futur, il n'y a pas d'enfant, du coup.
Si, mais... enfin, je ne sais pas, mais...
vous posez la question sur la ville, en tout cas. La ville qui, finalement, dans le futur... sera là et puis peut-être dans un futur encore plus lointain ne sera plus là, un peu comme dans les films les films qu'on voit aujourd'hui hollywoodiens d'anticipation,
oui.
Tout à fait finalement New York c'est plus du y a plus personne
New York,
c'est soit
1997,
un virus soit une catastrophe naturelle, mais effectivement
ouais, après avec les enfants
ça vous inspire ça, on reparle un peu du cinéma,
oui.
Mais...
ouais ça m'inspire, bah de toute façon le cinéma m'inspire, la musique me rythme et le cinéma m'inspire. Enfin, les deux se mélangent un petit peu, mais en résumé...
Oui, ça peut aller ensemble.
Ouais, ça va même très bien ensemble. Ouais. Et puis je trouve que, enfin, de la même manière qu'une photo... Enfin, de la même manière qu'un film, une photo, ça raconte une histoire d'une manière différente. C'est pas le même, c'est pas la même façon de ressentir les choses. Mais en tout cas, sur la forme de la narration, c'est un média qui est puissant aussi, la photographie. Et dans mon projet, j'ai surtout voulu aussi... Bah, en fait, ce qui me gêne souvent dans le travail, mais ce que moi j'avais pas envie de faire, c'est que souvent quand on découvre le travail d'un photographe, on sait s'il travaille en noir et blanc, en couleur, si son sujet c'est la ville ou la nature ou le portrait ou etc. Et moi je déteste les carcans. Et j'ai envie aussi de me surprendre, avant de surprendre les autres, moi de m'éclater et de prendre du plaisir dans ce que je fais et de pas tout le temps faire la même chose. Donc là l'idée c'était, j'ai ma série Origins au départ qui mélange l'humain et l'urbain, ensuite je fais de la mise en scène en faisant porter aux gens des masques et des lunettes pour illustrer le propos sur justement l'économie et l'écologie. C'est une histoire de couple, mon travail. Et sur la troisième partie, justement, on parlait de narration, mais pour moi, j'adore les trilogies, je trouve que c'est chouette. Voilà, il y a vraiment, c'est le top de la narration, la trilogie.
C'est bien construit.
Ouais. Et je voulais terminer en me disant, je suis portraitiste, j'aime les gens et j'aime voir les yeux briller. Je peux pas terminer sur une image anxiogène en plus de regard perdu. Parce que je suis quand même, j'ai aussi un côté optimiste dans la vie et j'ai envie de voir la beauté de la vie et de se dire que tout n'est pas perdu. Donc j'ai terminé en photographiant des gens âgés, cette fois-ci sans les lunettes, mais avec des rythmes, des ruines de ville. Et la boucle s'est bouclée très naturellement, j'allais dire, sur cette partie, parce qu'en fait j'ai utilisé comme fond la découverte de quartiers périphériques à Shanghai, où Shanghai est une ville qui pousse comme un champignon, où le prix du mètre carré il explose, et où tous les quartiers populaires qui correspondent au 18, 19e, 20e arrondissement parisien, ils sont rasés et les gens virés manu militari pour y construire des banques, des McDo, des Vuitton, etc. Et des bureaux, comme il y en a beaucoup à Paris. Et moi je me dis, c'est quand même ouf de se dire que ce sont les gens, les humains qui construisent la ville, et ensuite ils se font virer pour des raisons économiques pour y construire des centres commerciaux. Eux, ils habitent là depuis longtemps et en plus ils se font virer à la chinoise, c'est-à-dire sans grande indemnité d'après ce que j'ai compris, sans garde-fou, de manière assez violente. Et du coup, je me dis, c'est un peu, c'était une manière intéressante de terminer mon bouquin, parce que ça pose vraiment la problématique de l'homme et de la ville et de l'économie. Tout est synthétisé et pour moi c'est une série qui est vraiment importante et j'étais content de terminer là-dessus parce que pour moi c'est celle qui dégage aussi le plus d'émotions, parce qu'on retrouve justement le regard des gens et on se rend compte que la ville n'est qu'un décor et que le plus important c'est l'humain.
Donc il faut regarder ces photos comme une histoire,
oui,
que vous racontez dans un beau livre, vraiment un beau livre. Les photos sont très bien mises en valeur à l'intérieur. C'est un livre et puis c'est des photos qui sont exposées aujourd'hui à Cannes,
oui,
par exemple. L'exposition Urban Vortex est à Cannes jusqu'au 28 mai au Suquet des Artistes.
Oui, tout à fait.
Le livre était là avant.
Le livre, il est là depuis presque 2 ans. J'ai commencé par le livre. Alors là, c'est un petit peu original aussi, parce que généralement, on fait des expos, puis ensuite, on fait un bouquin.
Oui, c'est plutôt ce sens.
Ouais. Moi, j'avais tout en tête au départ et je voulais... Quand je suis revenu de ces 6 mois, je m'étais promis de faire une belle expo et un bouquin. Et j'ai commencé par le bouquin et le bouquin m'a permis de faire une jolie expo aussi à Jussieu, de rencontrer des étudiants, de présenter mon projet une première fois en avril-mai 2016.
Ça a intéressé les étudiants ? Ils avaient quel regard sur cette exposition ?
J'étais content, parce que je me suis rendu compte que quand je dis les jeunes, les générations, la génération un peu plus jeune que moi...
Hyper connectée.
J'ai eu des retours positifs, donc j'étais content que ça leur parle.
Ouais. C'est le genre d'image qui peut parler effectivement à un jeune. Quand on regarde vos photographies, on a ces fonds architecturaux, de villes, qui font penser aussi à une sorte de maillage, qui peuvent faire penser à l'hyperconnectivité, des lignes en fait qui se connectent, qui s'entrecroisent, même s'il y a le visage qui transparaît à l'intérieur. Mais c'est vraiment ce rythme et ce mouvement que vous avez voulu mettre en avant dans vos photographies. Et vous parliez d'anatomie au tout début de l'interview. Et c'est vrai que toutes ces lignes d'architecture mises donc en arrière-fond d'un visage, ça peut faire penser aussi parfois à l'intérieur du cerveau, par exemple.
Mais c'est complètement ça. Enfin, moi, c'est dans cet esprit-là
c'est ce que j'ai vu, en tout cas.
Ouais. Ouais, c'est pour ça que le tout début, la toute première photo, d'ailleurs, elle s'appelle Urban Introspection, parce que j'avais l'idée d'imaginer qu'on puisse rentrer dans le cortex des gens pour y voir justement tout ça. Enfin, c'est une espèce de radioscopie de l'humain et de la ville entremêlés. Ouais.
Et c'est de dire aussi que finalement, nous, citadins, on est complètement intégrés à la ville,
ouais,
voire même un peu oppressés par elle.
ou formaté. Je pense qu'il y a pas mal d'adjectifs.
Ouais, pas mal d'adjectifs. C'est une prochaine série avec des mots.
Mais la série avec des mots, elle fait partie du livre aussi, parce que comme j'aime bien, j'en reviens un petit peu à la musique, mais comme j'adore le rap, et que le rap, ça me plaît aussi, parce que c'est une des rares musiques où... je pense au beatbox notamment, mais à des mecs qui peuvent poser sur a cappella comme ça, juste envoyer un texte avec du flow. Il n'y a pas besoin d'artifice, juste avec des mots et du rythme, on peut faire une chanson. Et moi, j'ai voulu retenir aussi ça, c'est-à-dire que j'oppose deux photos, j'oppose ou je marie deux photos. Et je voulais faire la même chose avec les mots. Je voulais pas de titres. D'abord, je voulais des titres parce que pour moi c'est important de nommer une œuvre. Et puis je voulais pas de titres un peu gnangnan, quoi. Enfin, je trouve que parfois les titres sont un peu gnangnan d'une manière générale. Et moi je voulais des mots qui soient impactants. Et du coup j'ai choisi des mots un peu comme j'ai choisi les photos, c'est-à-dire que soit ils s'accordaient entre eux, soit ils s'opposaient, ils se clashaient entre eux. Et je voulais qu'il y ait une résonance à travers mes mots comme il y a à travers mes photos. Alors après c'est très subjectif tout ça, parce que...
Il faut aller voir votre travail pour se rendre compte. En tout cas, la musique a rythmé votre création photographique, c'est-à-dire que quand vous photographiez, vous avez la musique dans les oreilles ?
Quand je photographie,
quand vous voyagez en tout cas.
Ouais, quand je photographie les gens, j'arrive souvent avec un casque, et puis c'est souvent un vecteur de communication. Je trouve que la musique, comme l'image, c'est quelque chose d'universel. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin d'avoir la même âge, d'avoir la même culture, de croire aux mêmes choses, etc. On s'en fout de tout ça. Ce qui est important, c'est juste ce qu'on ressent, et la musique, c'est parfait, c'est un vecteur qui est parfait pour ça, pour communiquer des émotions, c'est le top, quoi. Donc effectivement, moi, j'écoute de la musique tout le temps, donc forcément, il y a une résurgence dans mon travail.
Alors quand on pense hip-hop, on pense aussi art urbain. Vos photographies font quand même un peu penser au street art par certains aspects. J'imagine que l'art urbain, c'est des choses que vous devez apprécier. Est-ce que par exemple, voir vos photographies affichées dans une ville, ce serait quelque chose qui vous plairait, puisque finalement c'est vrai qu'elle s'intégrerait bien à la ville du coup.
Ah oui, carrément, ouais. C'est quelque chose auquel je pense, j'ai pas mal de projets dans ce sens-là, justement. Mais c'est quelque chose qui me plaira beaucoup, effectivement, parce qu'elles ont leur place, et j'espère que sur des murs, bientôt on pourra les voir quelque part, c'est certain.
Donc en Asie ou en France ou ailleurs. L'Asie, donc, c'est vraiment le continent que vous avez exploré. Est-ce que vous allez aller ailleurs?
Oui, j'aimerais bien. L'Asie, je l'ai exploré au départ parce que pour moi, ça illustre le futur. C'est mon côté Sankukai, peut-être, quand j'étais ado. Je dis ça en rigolant, mais l'Asie, pour moi, ça m'a toujours fait penser au futur. Et c'est aussi une culture qui est loin de... Qui est pas du tout la nôtre. Enfin, moi, je suis français, donc d'une culture judéo-chrétienne. Je crois pas en Dieu, mais je me rends compte quand je vais en Asie que je suis de culture judéo-chrétienne. C'est-à-dire que la mort, la vie, l'amour, les relations sociales, je les vois à travers mon prisme culturel. Et quand je vais en Asie, je ne comprends rien. Et à la limite, plus j'y vais, et moins je comprends, et plus
vous
ça me fascine.
Vous parlez pas la langue.
Au bout de 3 mois au Cambodge, et puis comme ça fait 3-4 fois que j'y vais, je maîtrise quelques phrases, quelques mots, mais non, je parle pas la langue, non. Non, je peux pas du tout dire que je la parle, je comprends quelques mots, tout juste. Mais je la comprends pas, et du coup, je trouve que ce qui est intéressant en termes de créativité, c'est de se trouver dans une situation où on ne maîtrise pas les choses et on a besoin des autres. Et en Asie, moi, j'ai constamment besoin des autres pour essayer d'avancer, de comprendre. Je peux pas me débrouiller seul. Et le fait de pas se débrouiller seul, c'est bien de s'en rendre compte. Et c'est stimulant aussi parce que les autres vous apportent forcément quelque chose, et à chaque rencontre, on peut en tout cas en puiser quelque chose pour nourrir son travail. Donc voilà. Après, pour moi, c'est la première étape, c'est le premier étage de la fusée Urban Vortex, l'Asie. Et dans le deuxième étage, j'adorerais y mettre de l'Afrique, parce que je trouve que l'Afrique, c'est... C'est un continent où je suis déjà allé, mais il y a longtemps, j'aimerais y retourner. Aujourd'hui, je ne faisais pas de photos à l'époque et j'aimerais y aller aujourd'hui. J'aimerais aller en Amérique du Sud aussi, y retourner aussi pour faire de la photo, et en Amérique du Nord. En fait, je me rends compte que ce qui me plaît aussi avec mon projet, c'est que partout, il y a de la ville. Et partout il y a de l'humain, donc j'ai pas de limite quoi. Enfin, ce projet-là, je peux le travailler partout et il aura pas la même couleur. C'est-à-dire que je suis sûr que la suite d'Urban Vortex que je ferai en Afrique ou en Amérique du Sud, elle aura pas la même couleur et justement la narration elle sera renforcée parce que les sujets sont universels, mais en même temps, je pense que chaque continent aussi a sa palette de couleurs propre et que j'ai envie de découvrir, d'exploiter.
Un itinéraire artistique donc encore riche à venir. Merci beaucoup Boris Vilansky de nous avoir
Merci à
présenté
vous.
votre travail, de nous avoir parlé donc de cette série Urban Vortex qui fait l'objet d'un beau livre et d'une exposition en ce moment à Cannes au Cuquet des Artistes jusqu'au 28 mai 2017. Donc si vous êtes dans la région, allez-y, il y a 30 photographies, je crois, exposées dans un lieu assez grand, hein, qui permet vraiment une déambulation. Et juste une dernière chose, je crois qu'on peut déambuler en écoutant la musique devant vos photographies.
C'est ça qui est assez génial, c'est
Ouais.
que la ville de Cannes m'a proposé en fait de faire déjà d'exposer mon travail et je les en remercie. Et puis ensuite, ils m'ont proposé aussi de faire découvrir au public ce travail en musique. Alors, il y a eu toute une création sonore à travers un collectif qui s'appelle Marve, où le jour du vernissage, on a fait une captation audio de création de DJ, de musiciens qui avaient créé des morceaux spécialement en relation avec ce travail-là. Et effectivement, les visiteurs peuvent visiter l'expo. Alors, en plus, c'est dans une ancienne morgue qui a été réaménagée, enfin rénovée. Donc, c'est sympa aussi parce que c'est un
Il n'y
joli
a pas de
clin d'œil.
fantôme quand même.
Je sais pas. J'en ai pas croisé moi. Mais voilà. Mais c'est sympa de le faire en musique, effectivement, parce que ça permet vraiment un voyage, de s'immerger déjà dans la musique. Et la musique avec les images, ça se marie super bien. Et ça permet d'être ailleurs aussi, de sortir de la ville. Et ça fait un bien fou. Et l'expo est ouverte tous les week-ends et le sera tous les jours pendant la période du festival du film. Je pense que c'est du 17 mai au 28 mai, je crois.
Et vous êtes aussi sur Facebook,
Oui.
Boris Vilansky. Vous avez un site internet également où on peut voir votre travail.
C'est urbanvortex.com.
Urbanvortex.com.
Avec un H,
Avec un
celui d'humain.
H urban comme humain, hein, le H
Voilà.
de humain.
Ce qui manque dans nos villes, un peu plus d'humain, je crois.
Des photographies donc émouvantes, un voyage photographique qui fait découvrir aussi l'Asie.
Oui.
Merci beaucoup Boris Vilansky.
Merci.
En habillage sonore de cette émission, vous avez entendu Dans l'ordre, soigneusement choisi par Boris Vilansky. Kenny Arcana, Ils ont peur de la liberté. Akhenaton, Mon texte, Le savon. Ayam, Benkei et Minamoto. Et enfin NTM, That's my people. C'était Art Confidence sur Art District. Merci de rester à l'écoute d'Art District. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre compte Twitter et sur notre page Facebook.